Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce journal d'ONU Info. Au menu, le chef des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, est en visite dans le sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, pour montrer l'engagement de l'ONU à aider la population de cette province. La chef adjointe de l'humanitaire des Nations Unies, Ursula Müller, était en République centrafricaine et a appelé à venir en aide à 3 millions de Centrafricains dans le besoin. Dans un nouveau rapport, la CNUSED met en garde contre une aggravation de la fracture numérique et un accroissement des inégalités. Et en dossier, nous revenons sur le rapport de la Commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi qui dénonce le climat de peur qui règne dans le pays. Le secrétaire général adjoint chargé des opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, est en visite depuis mardi 3 septembre au sud Kivu, province de l'Est de la République démocratique du Congo. Objectif, saisir les nouvelles perspectives qui se sont ouvertes avec l'importante transition politique et démontrer l'engagement de l'ONU à aider la population de cette province affectée par les tensions dans les pays voisins dans le domaine de la sécurité. On écoute Jean-Pierre Lacroix.
Je suis allé dans la zone de Calais, qui connaît un certain nombre de problèmes sécuritaires. Nous irons dans d'autres zones du sud Kivu pour examiner la situation avec nos collègues de la MONUSCO, mais aussi avec la population et ses représentants, examiner de manière très concrète ce qui peut être fait aujourd'hui pour accélérer et aider le retour de l'État, la présence accrue notamment des FARDC, aider aussi à ce que lorsqu'il y a des groupes armés qui veulent désarmer et se réintégrer, ça puisse se faire. Et nous faisons de ce point de vue un plaidoyer en faveur du DDR et nous faisons aussi un plaidoyer auprès des agences et des partenaires qui peuvent aider à des programmes de réinsertion. Enfin, avec son excellence le gouverneur, nous avons évoqué les perspectives très importantes qu'ouvre le redémarrage de la coopération régionale. Parce que cette région de la République démocratique du Congo a été affectée par des tensions dans les pays voisins.
La chef adjointe de l'humanitaire des Nations Unies, Ursula Müller, a achevé une mission d'une semaine en République centrafricaine. À l'issue de cette visite, elle a déclaré que la sécurité, l'accès aux services essentiels et un financement supplémentaire de la réponse humanitaire étaient les priorités. Sur le terrain, Ursula Müller a pu rencontrer quelques-unes des 3 millions de personnes qui ont besoin d'aide dans le pays. Toutes ont réclamé de la protection, dont les femmes qui ont été victimes de violences basées sur le genre. Ursula Müller est au micro de Boris Ngwaguni de Gira FM.
J'ai rencontré la société civile, y compris les associations de femmes et des jeunes, la MINUSCA, mais surtout les personnes affectées. Tous mes interlocuteurs ont demandé à plusieurs reprises la protection. J'étais extrêmement touchée par le trauma et l'impact de la crise sur les femmes, en particulier celles qui ont été victimes de violences basées sur le genre. Ces femmes, ces filles et ces enfants ont besoin urgent de protection. Que les responsables de ces actes violents ne restent pas impunis. J'ai aussi pu constater le niveau de dévouement des partenaires humanitaires qui continuent à délivrer l'assistance dans des conditions particulièrement difficiles et souvent dangereuses. Je remercie les bailleurs qui continuent à appuyer nos efforts. Mais on a urgemment besoin de financement et de bailleurs additionnels pour combler les lacunes de la réponse et les besoins humanitaires croissants.
La fracture numérique risque de s'aggraver et d'accroître les inégalités. C'est la mise en garde de la CNUSED, la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement, dans son tout premier rapport consacré à l'économie numérique. L'agence onusienne souligne qu'une action est nécessaire au niveau mondial afin que les retombées de l'économie numérique profitent au plus grand nombre. Pascal Sim nous en dit plus.
Si rien n'est fait, le fossé numérique qui sépare les pays sous-connectés des pays hyper-numérisés se creusera et aggravera les inégalités, alerte la CNUSED. La création des richesses dans l'économie numérique est concentrée dans les mains d'un petit nombre de plateformes implantées aux États-Unis et en Chine. Les deux pays cumulent à eux seuls pas moins de 90% de la capitalisation boursière des 70 premières plateformes numériques au monde. Si les politiques et les réglementations actuelles dans l'économie numérique sont maintenues, cette tendance va se poursuivre et contribuer à l'accroissement des inégalités, a averti le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Le secrétaire général de la CNUSED, Mukisha Kitui, estime pour sa part qu'il faut répondre à la volonté des populations des pays en développement de faire partie intégrante du monde numérique, pas seulement comme utilisateurs et consommateurs, mais aussi en tant que producteurs, exportateurs et innovateurs. La CNUSED estime que les pouvoirs publics ont un rôle essentiel à jouer pour cadrer l'économie numérique, en définissant les règles du jeu et en adaptant les politiques, lois et réglementations existantes, à la fois au niveau national et dans le cadre d'une action concertée internationale.
La commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi dénonce dans un nouveau rapport publié cette semaine les violations graves des droits de l'homme commises pendant la période préélectorale dans ce pays. Les enquêteurs onusiens estiment qu'un climat de peur règne à moins d'un an des élections présidentielles, parlementaires et locales en 2020. Le président de cette commission d'enquête, Doudou Dien, explique au micro d'Alpha Diallo qu'il est nécessaire de se doter d'instruments d'alerte précoce et de prévention afin de surveiller ces violations des droits de l'homme.
Ce que nous essayons de faire, c'est avec la plus grande rigueur d'éviter de dénoncer ou d'attaquer ou d'accuser. Nous avons saisi un instrument qui est en train d'émerger dans le monde des droits de l'homme, notamment des Nations Unies. 8 facteurs de risque ont été élaborés qui permettent à la communauté internationale de littéralement suivre des situations de violation des droits de l'homme au Burundi et ailleurs et de réagir donc de manière ponctuelle et immédiate pour prévenir les violations graves des droits de l'homme.
Et quels sont ces 8 facteurs de risque ?
1. Un environnement politique, économique et sécuritaire instable. Le deuxième, un climat d'impunité générale pour les violations graves des droits de l'homme récentes et plus anciennes. 3. Une faiblesse des structures étatiques pouvant prévenir ou faire cesser d'éventuelles violations, notamment le système judiciaire. 4. L'existence d'intentions et de motifs de recourir à la violence, notamment la volonté du parti CNDD-FDD de se maintenir au pouvoir, y compris en instrumentalisant à des fins politiques des griefs et des cas d'impunité issus du passé. 5. La capacité des différents acteurs à recourir à la violence et à commettre des violations. 6. L'absence de facteurs atténuants tels qu'une société civile nationale solide, organisée et représentative, et des médias nationaux libres et diversifiés et indépendants. Et 7. Des circonstances et un climat propice à la violence et aux violations des droits de l'homme, y compris l'instrumentalisation à des fins politiques de l'identité dans le contexte burundais, d'événements passés ou de motifs de se livrer à la violence. Et enfin, le 8e facteur, c'est l'existence de facteurs déclencheurs, notamment la tenue des élections de 2020. C'est-à-dire que la tenue des élections est un facteur de risque déclencheur.
Mais en quoi ce système d'alerte précoce pourrait aider à prévenir d'éventuels abus des droits humains en prévision de ces futures joutes électorales ?
De deux manières. La première, l'existence de ces 8 facteurs. Ces 8 facteurs sont des signes d'alerte pour la communauté internationale, mais également pour le peuple burundais, les institutions et l'État burundais. Ils savent que ces facteurs existent. Et ce que nous voulons faire, c'est d'amener la communauté internationale à prendre chacun de ces facteurs un par un. Chacun des pays qui sont un partenaire ou non du Burundi. Les mécanismes régionaux et sous-régionaux comme l'Union africaine et la communauté des États de l'Est de l'Afrique orientale, etc., à utiliser ces facteurs, à faire eux-mêmes leur propre monitoring, c'est-à-dire de suivi d'une situation qui a des risques de violation des droits de l'homme. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Et enfin, je crois que aussi l'existence de ces 8 facteurs est un message très important pour le peuple burundais qui va être attentif à ça pour sa propre vie démocratique et pour la possibilité de se battre, ce qu'ils disent, et le gouvernement dit qu'ils vont aussi le faire, pour des élections démocratiques et libres. Et enfin, les autorités burundaises savent que ces 8 facteurs constituent des points absolument critiques qui seront suivis de manière attentive, non seulement par la commission d'enquête, mais par toute la communauté internationale.
Dernière question. Maintenant, vous êtes en train de décrire une situation qui pourrait dégénérer, mais en attendant sur le terrain, le rapport parle d'un climat de peur et d'intimidation. Ça se manifeste comment au quotidien pour tous ces milliers de Burundais ?
Mais ça se manifeste de manière absolument évidente, c'est-à-dire que les arrestations continuent, nombreuses, les disparitions, dont beaucoup forcées, parce que toute disparition qui n'est pas identifiée devient forcée, le fait que les libertés fondamentales d'expression, d'information et de communication ne sont plus possibles d'être exercées au Burundi, le fait que l'impunité n'a pas été remise en question, c'est-à-dire que ceux qui ont commis des violations graves des droits de l'homme, qui ont été dénoncés pas seulement par la commission d'enquête, mais d'autres mécanismes, n'ont pas été poursuivis, notamment les membres des Imbonerakure et certaines institutions de l'appareil d'État. Tout cela continue, c'est-à-dire que nous l'avons traduit tout cela par un concept persistance des violations des droits de l'homme. Alors la question centrale pour nous, maintenant en 2019, dans la perspective des élections de 2020, c'est de savoir si la situation va passer de persistance des violations à l'aggravation des violations. Et c'est là que les facteurs de risque vont être absolument un instrument d'analyse.
Voilà, fin de ce journal de Nuit Info. À retrouver sur notre page internet et nos comptes Twitter et Facebook. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.